Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 9 juin. Petite journée sous le signe de l'eau, hein?
Oui, oui. Oui. Sous le signe de l'humidité.
À bien des égards, oui.
Vous êtes en compagnie de la bande des trois ou la bande des quatre, parce qu'en fait, on est quatre.
En fait, on est quatre.
Comme les mousquetaires, mais aujourd'hui, on est trois.
C'est parce que nous, on le voit, le quatrième, mais les gens qui nous écoutent, ils savent
oui,
pas.
Mathieu. Et, je suis en compagnie de Marie.
Bonjour, bonjour, Michel.
Et de Yvan Desnoyers.
Et bonjour, Michel.
Et on a André quelque part dans la nature qui nous reviendra bientôt.
Oui, mais nous, on va la manquer parce qu'on sera pas là la semaine prochaine.
Ah oui, mais vous allez voir bientôt. Alors, Marie, tu nous parles de quoi?
Alors, je vais vous parler d'un télescope géant dans un premier temps. Et dans un autre temps, je vais vous parler de chenilles et d'un jardin botanique bien spécial contre la pollution en Chine.
Oh! Et de ton côté, Yvan?
De mon côté, je commence par parler de la sécheresse en Californie. Puis c'est un sujet qui risque de revenir dans le temps, là, parce que c'est vraiment énorme.
C'est très sérieux, hein?
Comme conséquence. Puis pour rester du côté... humidité, boisson, vin, finalement. On s'en va dans les cantons de l'Est.
Ah oui. Alors, de mon côté, je vais vous parler de la Kingdom Tower. Ça vous dit peut-être rien, mais c'est en Arabie Saoudite, à Jeddah. Et vous allez voir pourquoi je vous en parle. C'est assez impressionnant. Et aussi, bah, j'ai le temps des voyages, particulièrement en été. Et il y en a qui partent pour des destinations assez lointaines, avec décalage horaire. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer le décalage horaire?
Utile.
Quelques petites pistes de solutions.
Mais là, on est dans le fuseau de l'Est, hein, ici,
oui,
présentement.
Oui, oui. Alors, restez avec nous, vous allez savoir plein de choses.
Alors, le Canada mise gros sur un télescope géant. C'est un texte de Philippe Mercure, publié le 23 avril 2015 sur le site de lapresse.ca. C'est intéressant, je vous fais remarquer, il s'appelait Mercure et écrire à propos de la science, d'astronomie et d'espace, quand même. Faut le faire. Il sera gigantesque. Il permettra de voir des mondes célestes jamais observés par l'homme. Et il sera largement canadien. Le télescope de 30 mètres, une puissante machine qui sera installée en 2022 au sommet d'un volcan éteint à Hawaï, vient de faire l'objet d'un investissement de 243,5 millions du gouvernement fédéral. Voici donc trois choses à savoir sur ce télescope. Premièrement, il est immense. Le bien nommé télescope de 30 mètres, TMT, pour 30 meters telescope, aura un diamètre de 30 mètres, évidemment.
Impressionnant,
hein? Soit trois fois plus gros que les plus gros télescopes actuels. Et comme la puissance d'un télescope est fonction de son diamètre au carré, le TMT sera pratiquement 10 fois plus puissant que les meilleurs outils d'aujourd'hui. Il sera formé d'un assemblage de 492 miroirs qui peuvent tous bouger indépendamment l'un de l'autre. Chaque miroir aura à peu près la taille de celui de l'observatoire du Mont Mégantic. Le TMT, c'est donc 500 fois Mégantic, dit René Doyon, professeur d'astrophysique à l'Université de Montréal et directeur de l'observatoire du Mont Mégantic. Le TMT s'inscrit dans la nouvelle génération de télescopes prévus pour la prochaine décennie et dont font aussi partie le télescope géant européen d'un diamètre de 39 mètres et le télescope Magellan géant de 24,5 mètres qui seront tous deux installés au Chili dans les années 2020. Deuxième chose à savoir, il sera en grande partie canadien. Avec les États-Unis, le Canada a été l'un des instigateurs du TMT. Le gouvernement fédéral a attendu à la dernière minute, mais il a finalement débloqué 243,5 millions pour que le projet voie le jour. L'investissement fait en sorte que les astronomes canadiens s'assureront de 15 à 20 du temps d'observation du télescope. Les grandes découvertes sont tributaires des grandes infrastructures scientifiques. Si on n'y a pas accès, on est out, commente à ce sujet le spécialiste de l'Université de Montréal.
Est-ce que la contribution canadienne va se limiter à l'investissement financier seulement?
Non, le Canada ne fait pas que signer un chèque. Il s'engage,
j'espère.
Il s'engage aussi à fournir le dôme qui abritera le télescope, en plus du système d'adaptation optique. Ce dernier s'annonce particulièrement complexe parce que les chercheurs veulent mesurer la turbulence de l'air qui brouille les images, puis la compenser par des systèmes complexes qui feront bouger les miroirs jusqu'à 800 fois par seconde. Jamais un système aussi complexe n'a été construit. Pour remplir sa mission, le Canada devra faire appel aux efforts combinés de dizaines d'entreprises et d'instituts de recherche canadiens, dont plusieurs Québécois. La liste qui figure sur le site de la Société canadienne d'astronomie inclut notamment ABB Bomem et l'Institut national d'optique, tous deux établis à Québec. Plusieurs des technologies destinées au TMT seront testées à l'Observatoire du Mont-Mégantic. Les autres pays qui participent au TMT sont les États-Unis, surtout via le California Institute of Technology, le Japon, la Chine et l'Inde. Troisième chose à savoir à propos de ce télescope géant, le TMT est une machine à voyager dans le temps.
Oh, Marie, ça me questionne, ça. Voyager dans le temps.
Voyager d'abord.
Back to the future ou quoi?
Alors, en astronomie, plus on voit loin, plus on voit dans le passé.
C'est vrai.
Cela est dû au fait que la lumière des objets lointains met du temps avant de nous parvenir.
Ah oui.
Avec sa puissance incomparable, le TMT s'avérera donc une formidable machine à remonter dans le temps. René Doyon s'enthousiasme quand il dit « On va vraiment voir les premières galaxies s'allumer ». En collectant une grande quantité de lumière, le TMT permettra aussi de voir des objets cosmiques qui émettent faiblement et qui ont jusqu'ici échappé à nos moyens de détection. Le spécialiste ajoute qu'il est impossible de savoir ce qu'ils trouveront exactement. Les principales découvertes qu'a faites le télescope spatial Hubble sont celles qui n'avaient pas été anticipées. L'expert, dont l'équipe a réussi à prendre la première photo d'une exoplanète, alors vous brûlez de savoir ce que c'est une exoplanète, c'est une planète extrasolaire ou une planète située en dehors du système solaire, en 2008 donc, espère personnellement profiter du TMT pour voir ces planètes susceptibles d'abriter la vie comme elles n'ont jamais pu être observées. En terminant, le chercheur dit « On va aller sonder l'atmosphère de mondes potentiellement habitables. » Qu'est-ce qu'ils vont trouver? Ils n'en savent rien. Ils espèrent tous y trouver de la vie, mais dans tous les cas, ce sera assurément extrêmement intéressant.
Et le télescope va être en fonction en 2022.
Oui.
Hawaï, pas ici.
Non, pas ici. C'était un texte de Philippe Mercure publié le 23 avril 2015 sur le site de lapresse.ca.
Alors, de mon côté, je m'en vais en Californie, messieurs, mesdames. Alors, on va parler d'un phénomène qui peut avoir des conséquences assez importantes, puis c'est un sujet qui va revenir probablement dans les prochaines semaines. Donc, je vous parle de la sécheresse californienne. Est-ce que c'est un changement ou une variabilité climatique? C'est un article paru jeudi, le 28 mai, et écrit par Eve Christian dans le blog Science de Radio-Canada. La Californie souffre d'une sécheresse importante depuis presque 4 ans. Plus des 3/4 de son territoire affiche un niveau de sécheresse extrême ou exceptionnel. Le temps sec sur ce coin de pays n'est pas hors norme, car l'analyse de la taille des grains de sable enfouis dans la fangue a permis à des paléoclimatologues d'en déduire qu'il y a eu de longues périodes de sécheresse dans le passé, qu'on pourrait presque comparer à des changements climatiques. Mais selon l'Union américaine de géophysique, c'est tout de même la pire sécheresse à laquelle la Californie fait face depuis 1200 ans. Habituellement, c'est entre décembre et février que tombe plus de la moitié des précipitations annuelles de la Californie. Il n'a presque pas plu depuis la mi-décembre et l'accumulation de neige dans les montagnes de la Sierra Nevada n'atteint que 5 % de la moyenne des 10 dernières années.
C'est peu, ça.
On pourrait leur en prêter, je pense.
Oui.
Les réservoirs n'étant qu'à moitié pleins, le gouverneur de la Californie doit ordonner à la population de rationner sa consommation d'eau pour la première fois de l'histoire. Chaque patelin doit réduire sa consommation à la mesure de son utilisation. San Francisco doit diminuer sa consommation de 8 % par rapport au niveau de 2013 et les quartiers huppés, genre Beverly Hills, ainsi que les déserts où sont ironiquement situés les golfs, de 36 %. Une des parties les plus touchées par la sécheresse est la vallée centrale. C'est la région qui est coincée entre la côte Pacifique et les montagnes de la Sierra Nevada. C'est un endroit parmi les plus pauvres de ce pays, mais qui est la source de bien des richesses agricoles. La Californie produit plus de 60 % des fruits et des noix et 50 % des légumes au pays.
Quand même.
Certains Californiens se plaignent que les agriculteurs consomment près de 80 % de l'eau. Évidemment, leurs récoltes en ont besoin. Le gouverneur ne les soumettra pas au rationnement puisqu'ils ont déjà été durement touchés. Dans la vallée centrale, les agriculteurs perdront plusieurs millions de dollars à laisser leurs terres en jachère et devront en payer bien d'autres pour pomper l'eau. Concrètement, il faut 4 litres d'eau pour produire une seule amande.
Ça, c'est tellement impressionnant.
Au total, les producteurs d'amandes gobent 20 % de plus d'eau chaque année que les salles de bain et les laveuses électriques des 39 millions de Californiens.
Est-ce qu'on peut penser qu'on va devoir abandonner certains produits maraîchers?
Va falloir y penser, mais il ne faudra pas les laisser de côté parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que 50 % de la consommation domestique sert à verdir les pelouses.
Oh.
Fait qu'il y a peut-être des endroits
où aller chercher
avant. Il y a
quelque chose à faire de ce côté-là. Ben oui.
Plusieurs études tentent de trouver le responsable de cette sécheresse. La première indique que l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère modifie une partie du système de cellules qui régissent la circulation atmosphérique autour de la Terre. Entre autres, ils indiquent où sont les courants jets. En termes climatiques, ça signifie que l'air chaud monte plus vite et plus haut sur une bande plus étroite d'environ 20 degrés de latitude centrée sur l'équateur et qu'il redescend sur une zone beaucoup plus large dans les latitudes moyennes, précisément là où habite une grande partie de la population. Donc, il y aurait plus d'humidité au niveau des tropiques, principalement au-dessus des océans, et davantage de zones de sécheresse à de plus hautes latitudes. L'Ouest et le Sud-Ouest américain, dont la Californie, le Mexique et d'autres endroits sur la planète qui souffrent de sécheresse, sont exactement situés dans la zone où se trouve un déficit de précipitations. Selon une deuxième étude, on constate que les périodes de temps chaud et celles de temps sec se sont chevauchées plus fréquemment dans les 20 dernières années que depuis le siècle dernier. Et plus il fait chaud, plus l'humidité du sol diminue et plus l'évaporation augmente. Ça amplifie le manque de précipitations et les records s'accumulent comme en Californie depuis 4 ans. Rappelez-vous les 2 hivers inhabituellement froids qu'on vient de passer dans l'est de l'Amérique du Nord pendant que la chaleur envahissait l'ouest.
On s'en souvient bien.
Oui, c'est très frais dans notre mémoire. Hein?
Oui, oui.
D'après une troisième étude, le responsable découvert à l'automne 2013 serait un vaste corridor d'eau anormalement chaude dans le Pacifique le long de la côte ouest américaine. Cette zone d'eau chaude serait attribuable à une configuration météo particulière. Une crête, avec une pression atmosphérique plus élevée que la normale, chevauche le nord du Pacifique et le continent à la hauteur de la frontière canado-américaine. Elle réduit la formation et l'intensité des tempêtes qui sévissent normalement au-dessus du continent, diminuant ainsi les précipitations à l'ouest de la chaîne côtière du Pacifique. Elle canalise aussi l'air froid venant du nord canadien vers le centre et l'est de l'Amérique, où on est, pour particulièrement toucher la région des Grands Lacs.
Donc, ça veut dire qu'on a identifié la raison de cette sécheresse?
Ben non. Ah. Il y a trop d'hypothèses. Ah. Les conclusions de toutes ces études ne permettent pas d'établir définitivement le lien direct entre la sécheresse californienne et le changement climatique. Comme il n'y a pas de changement notable à long terme dans le climat californien depuis la fin du 19e siècle et que la moyenne des précipitations n'a pas sensiblement diminué, des scientifiques l'attribuent à la variabilité naturelle. Seul l'avenir et d'autres recherches le dira.
Ah, peut-être qu'on va pouvoir exporter de l'eau du Québec.
Ça, c'est à voir. C'est à voir. On se tient au courant. Mm-hmm. Sans jeu de mots. Je viens de vous lire des extraits de « Sécheresse californienne, changement ou variabilité climatique », article paru le jeudi 28 mai et écrit par F. Christian dans le blog Science de Radio-Canada.
Et je descends lentement l'escalier rouge et blanc de l'avion qui m'emporte chaque nuit en Californie. En Californie. In California. Est-ce la monnaie du soleil, ce jaune des taxis ou celui des hommes qui s'éparpille dans la nuit,
où s'éparpille la vie en Californie, en Californie.
California. Un moteur gris dans le brouillard pousse au fond de nulle part de les anges dans le soir. Les peintes de lait tout en or.
Ce serait de l'air dans les bras.
En Californie.
En Californie.
À mon réveil, où étais-tu? Il vente fort dans mes oreilles. J'achèterai un camion blanc qui nous emportera au printemps en Californie.
En Californie.
Donc, c'était California. On a de la suite dans les idées, hein? California, et c'était... Ben, vous l'avez reconnu, j'espère, Robert Charlebois.
Hein? Mais oui.
Ben oui, sinon, vous ne vivez pas au Québec.
Ou bien vous êtes très jeune.
Oui. Je vous ai parlé la semaine passée de l'homme qui veut toujours se surpasser, se dépasser dans les grandes réalisations architecturales. Ben, dans les semaines à venir, je vais vous faire part d'un certain nombre de ces réalisations-là, dont, par exemple, le canal de Panama. L'agrandissement du canal de Panama, c'est phénoménal. Aujourd'hui, je vous parle de la Kingdom Tower. On est à Jeddah, en Arabie Saoudite. Avec ses 167 étages, 530 000 mètres carrés de surface, la Kingdom Tower va être la plus grande tour jamais construite. Son coût, 1,2 milliard. C'est quelque chose, hein? Ces fondations sont déjà terminées. Ce n'est pas seulement des tas de projets. Hein. Et des fragments de façades préfabriquées commencent à arriver sur le chantier pour être installés maintenant. On nous dit qu'elle percera les nuages d'ici 4 ans, c'est-à-dire 2018. Cette tour va franchir un cap tout à fait symbolique, vertigineux. Elle va dépasser pour la première fois 1 kilomètre de hauteur. 1 kilomètre, 1 000 mètres. C'est quasiment 3 fois la taille de la tour Eiffel. Et quelques 200 mètres de plus que l'actuelle détentrice du record mondial, que j'ai eu l'occasion de côtoyer il y a peu de temps, à Dubaï, la Burj Khalifa, qui a 828 mètres de hauteur, c'est aux Émirats arabes. Alors, c'est surtout une cascade de défis qui se dessine à l'horizon. Défi des fondations, défi des matériaux, défi de la stabilité aussi, et défi du chantier, vous imaginez, les grues. Et défi de la conception, évidemment. Alors, profitant de son expérience avec la Burj Khalifa à Dubaï, l'équipe d'Adrien Smith a tiré des leçons de ses précédentes erreurs. Il nous dit en particulier, nous avons choisi de ne pas tester de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés de construction.
Je pense que c'est sage.
Ben oui. De fait, la hauteur démesurée de cette future tour implique des adaptations spécifiques, notamment en termes de fondation, de matériaux, de résistance au vent, de gestion d'énergie et de conception d'ascenseurs aussi. La Kimden Tower représente un défi énorme. Construire une structure si haute avec du béton renforcé, ça va être une première. Et on sait que ça risque d'être difficile de couler du béton à de telles hauteurs et d'affronter des vents impressionnants aussi. Et durant cette première phase, il a fallu notamment enfoncer dans le sol des piliers mesurant jusqu'à 110 mètres de long.
Aïe, aïe, aïe. Alors, c'est les principaux défis à relever?
Il y a des défis absolument incroyables. D'abord, le défi de construire sur du sable. Il ne faut pas oublier qu'on est dans le désert. Hein. En fonction de ces résultats, 270 piliers de 50 à 110 mètres de longueur ont été fabriqués. Ils sont formés d'acier et d'un béton spécial. Ces piliers perforent le sol et viennent s'appuyer sur les meilleures sous-couches possibles. Mm-hmm. En autant possible, on essaie de trouver du roc. Autre défi, la climatisation. On est en plein désert, hein? Et c'est grâce à un jeu d'ombre. Les flux de température à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de la tour, ont été simulés de façon informatique et testés sur maquette. Les murs extérieurs sont tous couverts de parois vitrées et ont été conçus de manière à être le plus isolant possible. Ils sont recouverts d'un film qui bloque les rayons infrarouges, ce qui limite évidemment l'entrée de chaleur. Un autre défi, parce qu'il y en a plusieurs, hein? Adapter les matériaux à la hauteur. Sur le chantier, le maître d'ouvrage a choisi, par précaution, de ne pas employer de matériaux innovants. On l'a mentionné. Il a exigé d'utiliser de l'acier et surtout, autant que possible, du béton classique, qui a l'avantage d'être moins cher et plus facile à poser que les bétons, qu'on appelle les bétons haute performance. Difficile de fabriquer des pompes suffisamment puissantes pour injecter du béton à 1 km de hauteur. Concrètement, jusqu'à 650 mètres, la partie inférieure de la tour va être réalisée essentiellement autour d'un noyau en béton, tout comme la terrasse et l'observatoire. Un autre défi, on pourra en énumérer plusieurs, j'en suis à mon quatrième, installer des ascenseurs rapide et sécuritaire. La Kingdom Tower accueillera 530 appartements et 200 chambres d'hôtel et de nombreux parkings. Elle sera la structure proposant le point d'observation le plus haut jamais construit au monde, situé au 157e étage. Elle va culminer à 630 mètres. Pour desservir ces lieux, une batterie de 57 ascenseurs est prévue. Et 7 d'entre eux vont être des modèles à double cabine, des « double decker ». Mm-hmm. Et toutes ces cabines pourront grimper et descendre à la vitesse de 10 mètres secondes, ce qui nous dit peut-être un peu, mais il suffira de 98 secondes pour atteindre l'étage situé à 508 mètres de haut. Là, 90 secondes.
Hein? À ces hauteurs-là, il y a du vent. Ça va être quoi l'effet du vent sur la tour?
Ben, on nous dit qu'un gratte-ciel de 500 mètres doit être 60 fois plus résistant au vent qu'un immeuble de 60 mètres. Donc, en partant de ce constat, Des simulations numériques et des essais sur maquettes permettent d'ores et déjà de prédire qu'en cas de vent, le sommet de la tour se déplacera parfois de 2 mètres par rapport à son axe, donc 1 mètre de chaque côté, et que la plus haute zone occupée oscillera de 1,2 mètre. On nous dit que c'est à peu près le maximum d'oscillation où on peut aller pour le confort. Vous imaginez dans votre salon et ça bouge de deux mètres. En train de prendre votre verre de vin, en même temps, vous le regardez en face, oh, on va arrêter de prendre notre verre de vin. Donc, vous voyez, c'est absolument phénoménal. Et c'est, la construction a commencé. Et c'était un texte de Muriel Vallin qui paraît l'ancien Science et vie hors série qui date de décembre 2014.
La face cachée de la grande ours. Archi-connue, la grande casserole, ou peut-être le chariot, ou la grande cuillère, tous s'entendent pour dire que la grande ours est la constellation la plus facile à reconnaître dans le ciel de l'hémisphère nord, avec ses 7 étoiles les plus brillantes formant une casserole et son manche, tournée vers le sol à cette époque de l'année. À y regarder plus près, on pourrait cependant découvrir dans ce coin de ciel des beautés moins évidentes et néanmoins fascinantes. L'étoile au centre du manche est en fait formée de 2 étoiles, Alcor et Mizar, un bon test d'acuité visuelle dont se servaient les anciens astronomes. Alcor est même doublé d'un autre soleil. Plusieurs galaxies importantes trouvent aussi refuge dans le grand chariot, dont la nébuleuse planétaire du Hibou reste d'une étoile décédée.
De mon côté, je vous parle des microbilles. On vous en a parlé déjà dans le passé. Il y a un mouvement qui s'appelle hashtag Bye Bye Bille, qui cible les cosmétiques polluants. Dernièrement, les microbilles de plastique ont fait jaser au pays. La compagnie Lush, de son côté, ne s'est pas contentée de les éliminer. La chaîne lancera en édition limitée l'exfoliant à la plage et remettra la totalité du prix de vente à des organismes caritatifs qui luttent contre la pollution des cours d'eau par les microbilles de plastique.
Je veux simplement parler d'une expérience incroyable, une expérience qui a pris 87 ans à réaliser. J'en parlerai un autre moment.
Ça va prendre un petit peu plus qu'à 87 ans.
Écoutez, Kiosque Magazine.
Des chenilles sous la tente, T-E-N-T-E. Un texte de Marjolaine Giroux, publié le 29 mai dans la section Insectarium Actualité Entomologique du site espacepourlavie.ca. Au printemps, il n'est pas rare d'apercevoir dans les arbres de gros enchevêtrements de toiles blanches. Chacun y vote ses hypothèses quant à l'origine de ces constructions. Plusieurs croient qu'il s'agit d'araignées. Dans les faits, ces toiles sont l'œuvre de chenilles qualifiées de chenilles à tente.
Des chenilles à tente. Qu'est-ce que c'est, ces choses-là?
Alors, il s'agit de chenilles qui se construisent un habitacle de soie appelé tente, à l'intérieur duquel elles se développent en groupe de plusieurs individus. La toile est un moyen de défense très efficace. Les chenilles sont aussi ainsi protégées des parasites, les mouches, les guêpes, des prédateurs, que sont les oiseaux, et des intempéries. Elles ont alors tout le loisir de brouter les feuilles à l'intérieur de leur abri. Au Québec, 5 espèces de chenilles à tente s'attaquent à plusieurs essences d'arbres indigènes ou ornementaux. 3 d'entre elles sont très communes. D'abord, les chenilles de la livrée d'Amérique et celles de la livrée des forêts se développent tôt au printemps. Les premières construisent des tentes blanches et soyeuses en forme de bourse, alors que les secondes se limitent à tisser un tapis de soie sur le tronc de l'arbre. Elles ne quittent leur abri de soie que pour se nourrir des feuilles des branches environnantes. Les chenilles des deux espèces brunâtres et velues se différencient par les taches de couleur présentes sur leur corps. Celles de la livrée d'Amérique ont une bande de couleur crème, très caractéristique le long du dos, ainsi que les côtés du corps tachetés de bleu et rayés de jaune. Les chenilles de la livrée des forêts ont également des marques bleues sur les côtés, mais présentent une série de taches blanches en forme de trous de serrure sur le dos. Les tentes de la chenille à tente estivale, la troisième espèce plus commune, sont davantage visibles à la fin de l'été. Très étendues, on les aperçoit généralement sur les arbres en bordure des routes et des lisières de forêt. Elles couvrent souvent une branche complète, voire même la cime de l'arbre. Les chenilles de cette espèce ne quittent pas leur tente pour se nourrir, mais l'agrandissent au fur et à mesure qu'elles grossissent. C'est surtout la détérioration de l'aspect esthétique de l'arbre qui soulève des inquiétudes chez de nombreux propriétaires. La méthode la plus efficace pour éliminer ces visiteurs des arbres de nos jardins est encore la cueillette et la destruction des tentes.
Oui, puis on peut dire qu'ils bouffent les feuilles très rapidement.
Oh, oui,
hein?
Oui, oui, oui.
On voit les feuilles disparaître sur une branche.
Oui,
c'est
un peu décourageant.
Très désagréable.
C'était un texte donc de Marjolaine Giraud, publié le 29 mai sur le site Espace pour la vie. Maintenant, je vous amène dans un jardin botanique pour lutter contre la pollution en Chine.
Oui, ils ont besoin de lutter contre la pollution
en
Chine.
Hein? Ouais. Un texte publié sur le site ici, radiocanada.ca, le 17 mai 2015, d'après un reportage d'Yvan Côté. Après avoir fait du Jardin botanique de Montréal l'un des plus importants sur la planète, le botaniste Gilles Vincent réinvente maintenant celui de Shanghai, en Chine. Son expertise et sa vision environnementaliste pourraient même apporter des pistes de solutions aux problèmes de pollution dans le pays. L'endroit où il se situe semble tout droit sorti d'un conte de fées pour les Chinois. Immense, bordé de lacs et de montagnes, c'est un espace vert comme il en existe très peu dans le pays. Ce coin paradisiaque,
oui.
On recommence, est aussi devenu le terrain de jeu de Gilles Vincent. Après presque 13 ans à la tête du Jardin botanique de Montréal, il est dorénavant l'unique conseiller spécial étranger à temps plein au jardin de Chenshan, en banlieue de Shanghai.
Alors, c'est assez surprenant que les Chinois soient venus chercher un Québécois, Gilles Vincent.
Tout à fait.
Pourquoi?
Ah, les autorités de la ville de Chenshan veulent faire du jardin l'un des 10 plus importants au monde. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'ils se sont tournés vers Gilles Vincent. Le botaniste est devenu une sommité mondiale. C'est lui qui est derrière les mosaïques cultures,
papillons
en liberté. Les grandes réalisations se sont succédées sous son règne. En Chine, le travail est différent. Contrairement aux autres jardins en Chine, celui-ci est moderne et a pour mission d'éduquer le public. Le rôle du botaniste est bien plus que de trouver le bon agencement floral. La plupart de son temps consiste à faire de la recherche environnementale. Il fait, par exemple, de la phytoremédiation, c'est-à-dire qu'il trouve des plantes qui ont pour particularité d'absorber les métaux lourds dans la nature. Cet enjeu est crucial en Chine, l'un des pays les plus pollués sur la planète. Les résultats de ces recherches en collaboration avec l'Université de Montréal sont remarquables. Malgré un sol souillé, les plantes survivent et emmagasinent les métaux lourds. Il croit qu'il trouvera la bonne espèce ou la bonne combinaison d'espèces pour dépolluer ces terrains-là. L'outil vert qu'il développe pourrait aussi nettoyer les eaux souillées. Il avait en fait amorcé ses travaux à Montréal, mais il n'avait jamais été mené à grande échelle. Gilles Vincent sait très bien qu'il n'arrivera pas à régler tous les maux de la Chine, mais il espère au moins apporter des pistes de réflexion qui pourront aider le pays à vaincre l'un de ses pires fléaux.
C'est comme un laboratoire d'essai
aussi,
en même temps, d'une certaine façon.
Exactement.
Qui pourrait nous servir ici.
Oui. Ouais. Donc, c'était un texte publié sur le site ici, radiocanada.ca, le 17 mai, d'après un reportage d'Yvan Côté.
On s'en va dans les cantons de l'Est. Découvrir les vins à vélo. J'en avais pas parlé de vélo depuis un petit bout. Quel cycliste n'a pas caressé le rêve de parcourir la Toscane à vélo, flirtant entre les vignes chargées de raisins mûrs, s'arrêtant ici et là pour découvrir un grand cru? À plus petite échelle et avec un budget plus accessible, les cantons de l'Est offrent un intéressant terrain d'initiation avec une route des vins qui se parcourt à la force des mollets. C'est un reportage de Violaine Balivie dans la presse du 6 juin. Les cantons de l'Est comptent près d'une trentaine de vignobles disséminés sur un parcours viticole de plus de 150 km. Mais ne vous laissez pas impressionner par ces chiffres. Il ne faut pas avoir les mollets d'un champion cycliste pour se risquer à explorer la route des vins sur sa petite reine. Il suffit de choisir un parcours adapté à ses besoins, par exemple dans la région de Donham, qui concentre à elle seule plus d'une dizaine de vignobles et permet ainsi plusieurs visites sur une distance raisonnable. L'article nous propose 4 arrêts, mais il y en a plusieurs autres. Commençons notre circuit par Val Caudalie. De l'audace, les 3 fondateurs de Val Caudalie n'en manquaient pas quand, à 25 ans, n'ayant pas d'expérience dans le milieu agricole, ils se sont mis en tête de devenir vignerons. De formation en stage, les voilà aux commandes d'un joli domaine planté sur les hauteurs de la route entre Donham et Frelisburg. Bonjour les mollets, ce qui vient avec l'un des plus beaux panoramas des environs. Leurs 20 000 vignes produisent autant de bouteilles de vin et autant de bouteilles de cidre. L'automne, les cyclistes pourront récolter eux-mêmes quelques grappes de raisins de table pour agrémenter leur pique-nique.
C'est un beau nom pour un vignoble, mais qu'est-ce que ça veut dire?
Tu veux parler de l'orpailleur, probablement.
L'orpailleur, ben oui. Ben oui, parce que oui. Tu ne l'avais même pas dit.
Je ne l'avais pas dit encore. Alors, on s'en va maintenant du côté de l'orpailleur. Dans le Larousse, l'orpailleur, c'est un artisan qui lave les alluvions aurifères pour en retirer les paillettes d'or. On a l'image en tête.
Oui, tout à fait. J'avais appris d'ailleurs le mot en visitant l'orpailleur.
D'accord. Pionnier de la viticulture au Québec, l'orpailleur a fait mentir le chanteur Gilles Vigneault, qui, en suggérant ce nom, avait classé les fondateurs du vignoble dans la catégorie des chercheurs d'or et des rêveurs de l'impossible. Plus de 30 ans plus tard, il n'a même plus besoin de présentation. Mais une visite? Oui, car il héberge aussi l'économusée de la vigne et du vin qui permettra aux néophytes, comme moi, d'en apprendre davantage sur l'art et les défis de la vinification. C'est aussi l'un des plus grands domaines de la province et il faut avouer qu'un panorama de 114 000 pieds de vigne, c'est épatant.
Il y a beaucoup de mérite, ce bonhomme-là, hein, parce que quand il a commencé, personne n'y croyait.
Non, il partait vraiment de rien.
Oui.
On s'en va maintenant du côté du château de cartes. C'est fragile, un château de cartes. Un coup de vent et tout s'effondre, comme le vin. Un épisode de grêle et c'est la catastrophe pour les raisins. C'est très précaire faire du vin au Québec, résume Stéphane Lamarre, un réalisateur télévisuel qui a entrepris un retour à la terre il y a une dizaine d'années. Il a suivi plusieurs formations en Allemagne, dont il a retenu une technique de taille de la vigne en hauteur unique dans la région, permettant à la brise de mieux circuler entre les plants et d'éviter les problèmes d'humidité et le recours aux antifongiques. La cave est intéressante à visiter, tempérée à l'aide de la géothermie et la gamme de produits en dégustation assez vaste. Un petit virage du côté du domaine des Côtes d'Ardoise. Si la région de Donham affiche l'un des climats les plus propices à la viticulture du Québec, le domaine des Côtes d'Ardoise profiterait, selon ses propriétaires, de conditions exceptionnelles, comparables à celles de la vallée du Niagara. Si bien qu'au début du siècle, les fermiers qui occupaient les lieux avaient la réputation de produire les premiers légumes de la région. Cela explique sans doute en partie la longévité du domaine, le plus vieux en activité sans interruption de la province depuis 1979. Le site est un plaisir pour les yeux. L'été, alors que les jardins débordent de fleurs et qu'on y accueille les œuvres d'une centaine de sculpteurs de la province.
C'est un des pionniers aussi, hein, Domenico d'Artoise.
Exactement,
hein? Oui. Un des premiers. 30 vignobles. J'en prends un petit verre de vin à chaque endroit. Est-ce que c'est pas un peu risqué, vélo?
Oui, je pense que là, il faut parler de quelques questions de sécurité à l'élaboration de notre circuit cycliste. Voici quelques conseils utiles avant de prendre la route. D'abord, pour la sécurité. Les principales pistes cyclables des cantons de l'Est ayant été installées sur des routes provinciales, il faut circuler sur un accotement et partager la voie avec les voitures et les camions. On évitera d'y amener les enfants qui ne sont pas parfaitement à l'aise sur deux roues. Où mettre notre voiture maintenant? Parce que les vélos, il faut les traîner. Des vignobles acceptent que des cyclistes stationnent chez eux leur voiture pour la journée, dont le domaine du château de cartes. Mais dans tous les cas, appelez pour confirmer l'information avant et prévenez un responsable à votre arrivée pour éviter les mauvaises surprises au retour. Vélo-taxi. Vous ne savez pas qu'est-ce que c'est, ça, hein? Un problème mécanique ou de muscle vous empêche de poursuivre la route. Un service de taxi pour les cyclistes a été mis sur pied l'an dernier dans les cantons de l'Est pour leur venir en aide en cas de pépin ou compléter un circuit un peu trop ambitieux.
Ou si vous avez pris trop de vin.
Encore? Oui, peut-être, oui. Oui, je ne sais pas s'il y a des alcotestes. Hein? On garantit que le véhicule dépêché sur place en moins de 60 minutes si aucune réservation préalable n'a été faite peut transporter jusqu'à 3 bicyclettes. Les 30 premiers kilomètres coûtent environ 45 $, puis le tarif passe à 1 $70 le kilomètre. On peut trouver des organismes qui proposent plusieurs circuits dans les cantons de l'Est qui s'accompagnent de cartes détaillées de rabais dans les vignobles. Un service de location de vélo devrait aussi être en place cet été à Donham. Et finalement, les vins se transportent plutôt mal à vélo, sachez-le. Gardez l'espace dans vos sacoches pour les bouteilles d'eau qui seront bien plus précieuses sur la route. Vous prendrez du temps après votre virée pour récupérer vos achats en voiture.
Surtout s'il fait 32 degrés.
Oui, oui. Je viens de vous lire des extraits du reportage « Canton de l'Est, découvrir les vins à vélo » de Violaine Balivi dans la presse du 6 juin.
Sous le tapis du vent, voyage, voyage, éternellement. De nuages en marécage, de vent d'Espagne en pluie d'Équateur. Voyage, voyage, vol dans les hauteurs. Au-dessus des capitales, des idées fatales, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que lundi et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage, sur l'eau sacrée d'un fleuve indien. Voyage, voyage, et jamais ne reviens. Chez les blacks, chez les sikhs, chez les jaunes. Voyage, voyage, dans tout le royaume. Sur les dunes du Sahara, des îles Fidji au Fujiyama. Voyage, voyage, ne t'arrête pas. Au-dessus des barbelés, les cœurs bombardés, un regard de l'océan. Voyage, voyage, plus loin que la nuit et le jour. Voyage, voyage, dans l'espace inouï de l'amour. Voyage, voyage,
voyage, voyage. Dans l'espace inouï de l'amour, voyage, voyage. Sur l'eau sacrée d'un fleuve indien, voyage, voyage.
C'était voyage, voyage, bien approprié, hein? Lost Fingers. Mm-hmm. Bon, des désagréments de voyage, entre autres choses, les effets du décalage horaire. Comment les prévenir? Ben, vous savez, ça peut être l'insomnie de la nuit, la somnolence de jour, la fatigue des maux de tête, des problèmes digestifs, difficultés de concentration aussi, hein? Ben, ça, c'est des symptômes que cause le décalage horaire chez la plupart des personnes. Mais il y a moyen de réduire, je dis bien réduire, ces fâcheux effets. L'humain normalement constitué, transplanté soudainement à 3 ou 4 fuseaux horaires de son habitat naturel, voit son cycle de veille-sommeil perturbé. Autrement dit, son horloge n'est pas à la bonne heure. On estime qu'il faut jusqu'à une journée par fuseau horaire traversé pour que notre horloge interne se synchronise avec notre environnement. Mm-hmm. C'est donc dit qu'il peut falloir 6 jours pour se remettre d'un décalage horaire causé par un voyage Montréal-Paris. Mm-hmm. Il faut dire qu'il y a des personnes qui sont plus fragiles que d'autres. Et dans le sens inverse, c'est pas tout à fait la même chose. Dans le sens inverse, donc Paris-Montréal, c'est-à-dire après un voyage d'est en ouest, on met la moitié moins de temps à s'adapter parce qu'on gagne des heures au lieu d'en perdre. Mm-hmm. Théoriquement, c'est plus facile. Mm-hmm. C'est pas toujours vrai. Alors, certaines personnes sont moins sensibles que d'autres, notamment celles qui ont un régime de vie irrégulier, qui dorment à toutes sortes d'heures. Ah, voici quelques petits trucs pour s'en remettre plus vite ou au moins réduire les effets. On nous dit, quelques jours avant le départ, commencez à habituer votre corps en devançant l'heure du dodo d'une demi-heure. Là où il pourrait y avoir un petit problème, c'est si vous avez un décalage horaire de 14 heures.
Bon, faut y penser un peu longtemps d'avance.
Ben c'est ça. Vous pouvez aussi rapprocher vos heures de repas de celles que vous aurez à destination. Donc, c'est toujours dans l'ordre du possible. Adopter un régime équilibré, on nous dit riche en protéines le midi et en hydrates de carbone le soir, des pâtes, par exemple. Durant le vol.
Oui, qu'est-ce qu'on peut faire durant le vol?
D'abord, mettez votre montre à l'heure de votre destination dès le décollage.
OK.
Simplement psychologiquement, vous ne vous sentirez pas comme à chaque fois, il est de chez nous, il est à l'heure, c'est assez mauvais. On nous demande de dormir, pour ceux pour qui c'est possible. Munissez-vous d'un masque de sommeil, de protecteur auditif. Certaines personnes s'aident d'un somnifère léger, j'espère, ou d'un médicament qui provoque la somnolence. Et les transporteurs aériens le déconseillent. Ils sont pas très friands de ça parce que les sédatifs peuvent empêcher les voyageurs de réagir de façon appropriée, surtout en cas d'urgence particulièrement. Les puristes conseillent d'éviter des repas servis dans l'avion, car ils sont généralement offerts à l'heure de votre point de départ. Bon, c'est bien ça, mais si vous avez un vol de 12 heures,
ça
peut être problématique. Hein? Ou essayez de vous mettre à l'heure de votre destination. Comme l'air est très sec dans l'avion, buvez beaucoup. Évitez la caféine et l'alcool dont l'effet diurétique provoque la déshydratation et risque de vous empêcher de dormir. L'hydratation est fort importante, particulièrement l'eau. Le fait de vous lever de temps à autre et de marcher un peu améliore la circulation sanguine et de ce fait réduit le risque de thrombose. Mm-hmm. Et ça, c'est particulièrement indiqué et même on devrait le faire sur des longs parcours. Mm-hmm. Je pense à 10 heures, 12 heures ou même 14 heures. On fait même, à certains moments, on passe des vidéos avec certains exercices.
Ah oui?
Il faut absolument bouger.
Alors, tout le monde dans l'avion se met à bouger en même temps?
Il y en a très peu qui le font.
Okay. Les autres dorment.
Il faut dire que quand on vous parle de dormir, vous dites qu'à certains moments, c'est problématique parce qu'on a souvent des annonces ou des choses qui vont vous tenir éveillé. Maintenant, vous êtes rendu à destination. Bien, restez actif physiquement. Si vous vous sentez vraiment fatigué le premier jour, bien, prenez des pauses. Bien, évitez les siestes et couchez-vous, mettons, vers 21 heures.
Ah oui, moi, je prenais une sieste quasiment quand j'arrivais.
Bien, c'est ça. Ordinairement, ce n'est pas recommandé.
Ah bon?
Okay. Ou il faudrait que ça soit très bref. Prenez un bain chaud avant de vous mettre au lit. Ça va vous détendre et la chute de température de votre corps, bien, ça va favoriser l'endormissement. Un somnifère léger pourra vous aider à faire d'une traite votre première nuit.
Mm-hmm.
Et si vous avez voyagé vers l'Est, exposez-vous le plus possible, ça je l'ignorais, le plus possible au soleil du matin et mettez des lunettes noires l'après-midi. Alors, si vous avez voyagé vers l'Ouest, ben vous faites le contraire. Ça, je l'ignorais, mais totalement.
On mettrait des lunettes noires le matin?
Les lunettes noires l'après-midi.
OK.
L'après-midi, pour vous habituer.
Genre à Vancouver, là.
Important, adopter le régime de vie des locaux. Je pense à l'heure des repas, de coucher. Par exemple, en Amérique du Sud, ben, l'heure des repas, c'est 20 heures. Alors, 20 heures, 21 heures et même parfois 22 heures. Donc, il faut vivre immédiatement à ce rythme. L'efficacité de la mélatonine en comprimé, on en parle souvent, mm-hmm. n'ayant pas été prouvée scientifiquement, et l'inefficacité de l'homéopathie ayant été prouvée scientifiquement, bien, mieux vaut s'en abstenir, hein, mm-hmm. parce que c'est inutile, totalement inutile. Enfin, si vous partez pour moins de 3 ou 4 jours, ben, ignorez totalement ce que je viens de vous raconter. Alors, c'était Fabienne Couturier, Fabienne Couturier qui nous donnait ses conseils dans la presse du 11 avril. Alors, je vous avais annoncé la plus longue expérience de labo. Ben, on avait le temps, hein, la plus longue expérience. Elle va durer 87 ans. Mais ça y est, la 9e goutte de poids, POX, est tombée. Le physicien Thomas Parmell avait lancé l'expérience en 1927 à l'Université du Queensland en Australie pour démontrer à ses étudiants que des substances, quoique solides en apparence, sont en réalité des fluides de très haute viscosité. Ah, il a fait couler de la poix dans un entonnoir fermé. Il a attendu 3 ans. Il a retiré le bouchon en 1930. La première goutte est tombée 8 ans plus tard. Ah, les scientifiques en ont déduit que la poix était 230 milliards de fois plus visqueuse que l'eau. Alors, la démonstration a déjà fait son entrée dans des livres Guinness des records comme la plus longue expérience du monde. Ben, qu'est-ce que ça nous a appris? Je l'ignore.
Je ne sais pas. Puis l'expérimenteur du départ, il était peut-être pas là à la fin. Hein?
Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça que la goutte attendait.
Un tueur d'arbres. Grand comme un grain de riz, le Dendrocton méridional du pin tue les arbres en se nourrissant de la partie interne et intérieure de leur écorce. Les larves et les jeunes adultes hibernent sous l'écorce et s'envolent seuls ou en groupe au printemps vers de nouveaux arbres à coloniser. De 1960 à 1990, cet insecte a causé pour 900 millions de dollars de dommages dans les forêts de pins du sud-est des États-Unis. Le réchauffement climatique n'est pas la cause, mais un facteur de sa progression vers le nord-est du pays. Le Dendrocton méridional du pin a un cousin canadien, le Dendrocton du pin Ponderosa, qui a détruit 13,5 millions d'hectares de forêt dans le nord de la Colombie-Britannique dans les années 2000.
En plus d'être nuisible, il y a un nom imprononçable. Donc, saviez-vous qu'en janvier, la Poudre Valley Hospital de Fort Collins au Colorado a équipé ses 14 ambulances de support à vélo au coût de 350 $ par véhicule.
Alors voilà Yvan avec ses vélos.
Ça vous surprend sûrement comme choix de sujet.
Oui.
Les autorités hospitalières se sont rendues compte que les victimes d'accidents ou leurs accompagnateurs se plaignent de devoir laisser leur monture sur les lieux de l'accident, car leur vélo est souvent leur moyen de transport principal. Lorsqu'ils sortent de l'hôpital, les patients n'ont qu'à demander leur bécane en garde, aux gardes de sécurité.
Alors, merci d'être là aujourd'hui. Comment ça va? C'est la psychologue assise en face de vous amorce la conversation d'une voix douce. Ben, c'est assez banal, hein? Sauf qu'il s'agit d'un avatar, d'un robot qui vous observe à l'aide de webcam. Ce programme a été mis au point par des chercheurs états-uniens de Southern California. En analysant en temps réel le mouvement des yeux, la posture, la modulation de la voix, les expressions faciales et les réponses du patient, le logiciel serait capable de détecter les symptômes de la dépression avec une précision de 90 % et de repérer l'anxiété, par exemple, la peur, la nervosité. Sim Sensei, c'est le nom. On est encore au stade de prototype, mais il remplacera peut-être un jour les divans du psy. Alors, besoin d'un psy? Allez voir le robot. Ben, on est rendu au terme de notre émission, hein, et on vous remercie de votre présence. Essayez de nous rejoindre à Canal M, à commercialvusezvoix.com. On remercie Mathieu Tessier. On remercie aussi, bien sûr, Marie Lalande et Yvan Desdauriers.
Merci.
Et on vous souhaite une très bonne journée.
Merci, Michel.